Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Alban Gaillot, député du Val-de-Marne. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel et politique? Vous avez été élu en tant que député La République En Marche avant de quitter le groupe majoritaire à l'Assemblée.
Oui, c'est tout à fait ça. J'ai été élu sous cette étiquette La République En Marche. C'était mon premier mandat politique. J'avais jamais eu de mandat par ailleurs, ni local ni national. Et donc effectivement, j'ai quitté La République En Marche en 2020 et depuis je suis députée non inscrite.
Alors, votre proposition de loi pour allonger la durée légale d'accès à l'avortement est en discussion au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette proposition de loi? Pourquoi faut-il allonger la durée légale de l'IVG de 12 à 14 semaines?
Alors, cette proposition de loi, elle répond à des problématiques de terrain qui m'ont été remontées par des associations, des professionnels de santé, qui nous expliquent effectivement rencontrer les femmes qui arrivent tardivement dans les parcours d'IVG. Il faut savoir que plusieurs milliers de femmes chaque année sont obligées de partir à l'étranger pour avorter, parce qu'elles n'ont pas de solution en France, parce que les délais sont trop courts, parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce qu'il n'y a pas assez de structures. Et seules les femmes qui ont les moyens financiers peuvent partir à l'étranger. Donc il faut, afin de répondre à cette inégalité d'accès, cette proposition de loi effectivement prévoit l'allongement des délais de 12 à 14 semaines de grossesse, prévoit également que les sages-femmes puissent pratiquer ce qu'on appelle les IVG instrumentales. Et ce sont des avancées majeures. Il faut savoir que la France n'est pas en avance par rapport aux autres pays européens, puisque d'autres pays comme l'Espagne, le Pays-Bas, la Suède, et d'autres encore sont bien plus avancés.
Et vous nous dites que l'accès à l'avortement n'est pas respecté partout sur le territoire. Certaines femmes ont du mal à avoir des rendez-vous rapidement avec des médecins et elles ne se sentent pas toujours soutenues par les professionnels dans leur démarche.
Oui, c'est tout à fait ça. Certaines femmes, effectivement, sont bloquées dès leur entrée, dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes et qu'elles ne veulent pas garder cet enfant. Et je peux vous assurer que les femmes, quand elles ont décidé d'avorter, avortent. Elles sont parfois, elles ont des barrages parfois qui sont de la part des médecins même. Et donc il y a cette idée de supprimer ce qu'on appelle la clause de conscience spécifique. On ne sait pas si la loi sera votée en l'état. En tout cas, voilà, il faut lever des freins, créer des répertoires nationaux pour permettre d'avoir une meilleure connaissance et puis rouvrir des structures permettant aux femmes d'avorter. Donc former mieux également les médecins, parce qu'on sait aujourd'hui que les gynécologues obstétriciens sont assez peu formés aux techniques de l'IVG instrumentale. Donc il y a aussi cette proposition de loi, si vous voulez, elle a des aspects qui peuvent paraître techniques, mais elle répond à des vraies problématiques sociales et elle s'inscrit, je pense, dans une prise en charge beaucoup plus globale de la santé des femmes et effectivement une meilleure formation des gynécologues obstétriciens à la prise en charge, notamment de l'avortement.
Elle s'inscrit dans le prolongement de ce que voulait Simone Veil?
Elle s'inscrit tout à fait, puisque Simone Veil répondait à une problématique. Vous savez que Simone Veil n'était pas une féministe acharnée. Elle a répondu, elle a écouté les problématiques de terrain, elle a écouté les associations, notamment le MLAC, qui lui remontait effectivement les problématiques des femmes qui mouraient parfois d'avortements clandestins, puisque c'était pas légal. Aujourd'hui, il y a des femmes en France qui ne peuvent pas avorter, donc qui partent à l'étranger. Et puis il y a toutes celles qui ne peuvent pas partir à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Je ne sais pas aujourd'hui, je peux pas vous dire qu'il y a des avortements clandestins, mais peut-être qu'il y a certaines femmes qui vont avorter malgré tout. Ou alors peut-être mener à une grossesse à leur terme contre leur gré. Et on peut imaginer l'impact psychologique à la fois sur la mère et sur l'enfant et sur leur relation, bien évidemment.
Votre proposition de loi a suscité des oppositions. Est-ce que vous avez bon espoir de l'avoir adoptée avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron?
Alors, effectivement, cette proposition de loi elle a soulevé et suscité beaucoup d'opposition du côté de la droite de l'hémicycle. Plus concrètement, les Républicains sont à 99%, je dirais, opposés. Il y a quelques députés qui ont voté pour et je les salue encore. Nous militons, ça fait un an et demi qu'on est maintenant sur cette proposition de loi. La navette législative est compliquée et lourde. Donc j'ai obtenu récemment depuis quelques mois le soutien de la majorité du gouvernement sur ce sujet. Et donc, nous accélérons la navette. Donc là, c'est au Sénat. Ensuite, on espère une réunion d'une commission mixte et ainsi de suite. Et oui, j'ai bon espoir que cette proposition de loi soit votée avant la fin du quinquennat. Et ce serait une très bonne nouvelle pour les femmes.
Alban Gaillot, le Premier ministre Jean Castex a inauguré ce jeudi deux nouvelles stations de métro à Montrouge et à Bagneux qui portent les noms de deux femmes, la chanteuse Barbara et la résistante Lucie Aubrac. Plus globalement, quel bilan faites-vous de l'action du gouvernement sur la question des droits des femmes ?
Alors, je crois que le gouvernement, en tout cas, il en avait l'ambition, la grande cause du quinquennat, effectivement, c'était l'ambition du gouvernement. Mais au-delà des ambitions, il faut aussi des actes. Et je salue effectivement cette ambition, je salue certaines actions, mais non, il n'empêche, on ne va pas assez loin. Et quand on voit qu'on ne va pas assez loin, c'est notamment sur la prise en charge des violences conjugales, des violences faites aux femmes plus généralement. Les budgets ne sont pas à la hauteur. On a encore beaucoup, beaucoup de difficultés. Les femmes ont encore beaucoup, beaucoup de difficultés à porter plainte dans les commissariats de police. La plainte n'est pas forcément prise. Donc je sais qu'il y a un effort. C'est très progressif, c'est très poussif. Il faut aller plus loin. Il faut enclencher vraiment, je dirais pas la seconde, même la troisième. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on en est à 4 féminicides aujourd'hui. 4 féminicides. Donc on ne peut pas s'asseoir et se reposer sur ses lauriers. Il y a beaucoup de combats encore à mener. Par ailleurs, sur l'autre volet, qui est notamment l'égalité professionnelle, je crois que là, le gouvernement a pris des mesures qui sont très intéressantes, et je pense notamment à l'index de l'égalité. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais chaque entreprise de plus de 250 salariés est obligée chaque année de publier ce qu'on appelle un index de l'égalité qui montre ses efforts. Et c'est sa prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de son entreprise.
Alban Gaillot, une cellule anti-harcèlement a été créée au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que son rôle a été utile? Et plus généralement, qu'est-ce qui peut être fait pour lutter davantage contre le harcèlement?
Alors effectivement, il y a une cellule anti-harcèlement qui a été créée à l'Assemblée nationale et j'ai salué la création. C'était une demande forte à la fois des collaborateurs, des collaboratrices et de tout le personnel hein, qui travaille à l'Assemblée nationale, puisqu'on sait que les lieux de pouvoir comme l'Assemblée nationale sont des lieux effectivement où il peut y avoir plus de harcèlement moral et peut-être même aussi sexuel. C'était une volonté forte. On voit aujourd'hui, il y a un rapport effectivement qui montre, les syndicats de collaborateurs et collaboratrices de montrer qu'en fait, il y a eu des plaintes, mais que ces plaintes n'ont pas été transmises. Donc du coup, moi je dis faites attention, parce que c'est encore pire de laisser croire à une victime qu'elle sera entendue, écoutée et aidée. Voilà.
Alors Emmanuel Macron a annoncé une stratégie pour lutter contre l'endométriose, une maladie encore mal connue, mal diagnostiquée et donc mal soignée. Alban Gaillot, c'est une maladie qui concerne une femme sur 10. Sur ce sujet, il faut sensibiliser davantage le grand public?
Alors, c'est une maladie qui effectivement a mis du temps à être reconnue, qui est encore très tabou. L'endométriose touche effectivement près, je crois, plusieurs millions de femmes. Je crois qu'il était temps, que le gouvernement prenne ce sujet à bras le corps. Donc oui, je crois que la mesure du gouvernement de réunir un comité interministériel, mettre en place un plan, c'est très intéressant. Et je serai très vigilante sur la mise en œuvre de ce plan. Cependant, ce matin, nous avons voté à l'unanimité une proposition de résolution de Clémentine Autain, du groupe La France Insoumise, qui souhaite inscrire l'endométriose dans le répertoire des affections de longue durée et améliorer le remboursement aussi des traitements. Donc je pense qu'il y a des mesures. Aujourd'hui, les femmes ont besoin d'être entendues, les femmes souffrent, elles ont besoin que cette maladie soit reconnue comme une véritable maladie et qui est très invalidante pour les femmes. Et quand on parlait tout à l'heure d'égalité professionnelle, une femme qui souffre d'endométriose est une femme qui travaille moins parce qu'elle est empêchée de développer ses compétences, développer son savoir-faire, parce qu'elle est empêchée par sa maladie.
Alors j'aimerais qu'on parle des AESH, les assistants d'élèves en situation de handicap. Ce sont souvent des personnes mal payées, pas assez formées et en contrat précaire. La députée socialiste Michèle Victory a fait une proposition de loi pour tenter de réformer leur statut. Est-ce que cela va dans la bonne direction ?
Alors, effectivement, j'étais hier en commission sur la proposition de loi de Michel Victory, une proposition de loi qui va dans le bon sens. Les AESH, c'est le personnel qui accompagne les élèves en situation de handicap dans nos écoles. Aujourd'hui, c'est des contrats très précaires, des contrats de 3 ans. Elles ne peuvent effectuer pas plus que de 24 heures par semaine. Elles sont en moyenne payées 750 euros par mois. Oui, ce sont des contrats précaires, donc la proposition de loi va dans le bon sens parce qu'elle prévoit la CDIsation et une revalorisation salariale, ainsi qu'un équivalent temps plein qui leur permettra effectivement d'avoir un salaire enfin normal, quoi, leur permettant quand même de vivre. Ce sont des métiers essentiels et pourtant aujourd'hui, effectivement, c'est des métiers qui sont un peu mis de côté. On veut l'inclusion de tous nos élèves en situation de handicap. Et pourtant, ces professions qui accompagnent les élèves ne sont pas rémunérées, ne sont pas entendues à la juste valeur et de leur apport aux élèves en situation de handicap.
Et avoir un CDI, c'est aussi utile pour ces élèves en situation de handicap, car ils pourront retrouver les assistants d'année en année plutôt que de changer parfois en cours d'année d'assistant.
Tout à fait, c'est une vraie problématique qui m'a été remontée beaucoup dans ma circonscription. Vous savez, c'est des élèves qui sont dans une grande fragilité. Hein. Et quand on parle du handicap, il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles. Donc on ne parle pas que des handicaps moteurs. Hein. Bien évidemment, il y a tous les handicaps psychiques. Le fait d'avoir un référent, son AESH, qui ton référent qu'il a d'année en année, est un cadre sécurisant qui permet de faciliter les apprentissages, bien évidemment.
Alban Gaillot, la majorité sortante a refusé de déconjugaliser l'allocation adulte handicapé, une allocation qui n'est pas versée si les revenus du conjoint dépassent un certain seuil. Vous êtes choqué que sur ce sujet, il n'ait pas été possible de changer la loi ?
Oui, moi je suis choquée par cette posture politique en fait. Je suis choquée parce que depuis le début de mon mandat, les oppositions tentent effectivement de faire évoluer ce mécanisme de versement. Et le seul argument qui est avancé, c'est le fait que ce soit une prestation sociale, et donc comme toutes les prestations sociales, elle doit être calculée de la même manière. Je pense que ce gouvernement qui a dit qu'il voulait changer les choses, améliorer la vie des Français, je pense que sur ce point-là, il aurait été vraiment une avancée importante pour les femmes notamment, mais pour tout le monde, justement de revoir le mécanisme de versement. Parce qu'on sait, hein, et moi je me bats pour le droit des femmes, on sait que cette mesure fragilise et rend dépendante la femme lorsqu'elle est victime de violences conjugales, qui ne peut pas partir puisque elle n'est pas son allocation est pas individuelle et bien de couple, voyez. Donc je crois que on a raté le coche j'espère que le prochain président ou la prochaine présidente de la République remettra ce sujet sur la table parce que c'est un sujet très très important.
Alban Gaillot, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, a appelé au rapatriement des enfants de djihadistes actuellement en Syrie et en Irak, un sujet auquel vous êtes sensible vous-même. C'est un devoir d'humanité que de les faire revenir en France.
Alors, sur ce sujet, il faut, je pense, faire très attention aux mots qu'on utilise. Je rappelle que ce sont des enfants qui sont en général, et pas que, hein, ils sont nés souvent en France, et de toute façon ils ont leur maman qui est française, ils ne sont pas responsables des actes de leur mère, il faut les rapatrier. Et la situation dans les camps, elle est catastrophique. Il fait froid, les conditions sanitaires ne sont pas respectées, la France ne apporte pas son aide au maintien et à la garantie et à la sécurité sanitaire de ses citoyens. Et par ailleurs, les autorités kurdes ne veulent pas juger les personnes qui sont dans les camps et demandent aux États de rapatrier leurs ressortissants. Donc moi, je pense que ces enfants, ce sont des enfants. Avec leur mère, ils doivent rentrer. Les mères seront jugées, les enfants pris en charge. Il ne s'agit pas de milliers d'enfants. Je crois qu'on parle de 200 ou 250 enfants. Les autres pays européens, la Belgique et d'autres, rapatrient tous leurs enfants et tous leurs ressortissants. La France est un des seuls pays à aujourd'hui interdire ce rapatriement. Elle le fait qu'au compte-gouttes. Elle choisit ses enfants. Je pense qu'il faut dépasser le débat. Ce sont des enfants et des ressortissants français. Il faut les rapatrier. Un point, c'est tout. Et je salue l'appel de Bernard Cazeneuve bien évidemment.
Alban Gaillot, le chanteur Stromae, a ému la France entière sur TF1 en révélant dans une chanson qu'il avait été dépressif, qu'il avait eu aussi des pensées suicidaires. Ce qui m'amène finalement à vous interroger sur la santé mentale en France. On a vu que de nombreuses personnes avaient été touchées par des problèmes de santé mentale lors de la crise sanitaire. Est-ce qu'il faut mettre plus de moyens pour venir en aide aux personnes qui sont confrontées à des troubles psychiques ?
Alors, effectivement, la santé mentale est le parent pauvre de la santé en France. Il y a eu un rapport parlementaire il y a quelque temps de députés Martine Vonneur et Caroline Fiat, il me semble, qui était éloquent. Effectivement, il faut donner plus de moyens à la médecine, à la santé mentale. Je crois que la prise en charge du suicide est une cause. Je crois qu'il y a plus de 100 000 personnes, je crois, chaque année dans le monde, je crois, l'OMS a dit ça, qui se suicident. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment œuvrer et, afin que, ben, voilà, on trouve des solutions. La prévention est une solution. Je pense qu'il faut, au-delà des bonnes intentions et des mots, il faut des actes et des moyens à mettre en œuvre. Tout à fait.
Alban Gaillot, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est votre premier mandat politique. Vous avez été élu député en 2017. La législature s'achève bientôt. Est-ce que cela vous a donné le goût de la politique ? Est-ce que vous avez envie de poursuivre la politique à la fin de votre mandat ? Est-ce que vous allez vous représenter ?
Alors oui, c'était mon premier mandat, ce sera mon dernier puisque je ne me représente pas, j'ai décidé effectivement de ne pas me représenter, à la fois pour des raisons personnelles et puis je crois que le mandat de député est un mandat ardu parce qu'il est beaucoup de, il nécessite un investissement très très important. Et un sentiment souvent d'impuissance aussi, hein. C'est-à-dire que c'est une grosse institution, l'Assemblée nationale. Et donc le goût de la politique, bien sûr, mais je ferai de la politique à l'extérieur. Voilà.
Merci Alban Gaillot. Je rappelle que vous êtes député du Val-de-Marne. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.